Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du débat politique de Radio Ndiki Luka. Il est au point mort. Depuis 3 mois, le processus du dialogue républicain n'avance pas. L'opposition démocratique s'est retirée du comité préparatoire de ses assises, exigeant donc du gouvernement l'abandon total des procédures de levée d'immunité parlementaire des députés de l'opposition Martin Ziguilé, Anissé Georges Dologuilé et Aurélien Simplice Zingas. Ce dialogue qui devait avoir lieu en fin 2021 peine encore à être une réalité. Entre-temps, la semaine dernière, les jeunes leaders des partis politiques de l'opposition ont demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour permettre la tenue du dialogue avant les élections municipales et de faire asseoir la sécurité dans tout le pays, condition sine qua non de leur participation aux élections à venir. Question qui bloque réellement le processus du dialogue. Gouvernement et opposition veulent vraiment la tenue de ces pourparlers nationaux. Que souhaitent les jeunes pour la tenue du dialogue à venir? Voilà tant d'interrogations qui vont permettre à nos invités, que sont les jeunes leaders des partis politiques ou bien qui s'intéressent à la politique, ici sur le plateau de Radio Ndiki Luka, où j'invite Héritier Doneng, directeur de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports, secrétaire général de la coalition Béafrica Engagée, une organisation qui soutient les actions du pouvoir ou bien du gouvernement. Monsieur, bonjour.
Bonjour monsieur Armando.
Bertrand Beldo, ancien leader des étudiants et ancien chercheur à l'université de Bangui, à la faculté des sciences économiques, observateur dans ce débat. Monsieur, bonjour.
Armando, c'est moi.
Ephrem Masséo, bonjour.
Bonjour.
Chargé des relations avec les institutions de la plateforme des jeunes leaders de l'opposition démocratique, Edgar Bozang Dili, bonjour.
Bonjour Armando.
Expert en gestion des conflits et étudiant en master en communication politique. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndiki Luka.
Le débat politique d'aujourd'hui, les jeunes leaders politiques ou bien qui s'intéressent à la politique de leur pays sont à l'honneur ici dans les studios D de Radio Ndiki Luka. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, l'actualité oblige, l'Afrique de l'Ouest est émaillée en ces derniers temps de coups d'État en coups d'État au Mali, en Guinée et récemment au Burkina Faso. Quel commentaire faites-vous de cette fragilité de démocratie en Afrique de l'Ouest? D'abord avec vous, monsieur Beldo.
Merci Abando. C'est pas une question de fragilité démocratique. Hein. Vous savez, lorsqu'il y a un coup d'État, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir. Et généralement, ces coups d'État, quand on voit un peu les contextes dans lesquels ces coups d'État se sont produits, c'est la somme des mécontentements, des manifestations dans les rues que les militaires ont capitalisé pour mettre hors d'état de nuire ces hommes politiques en qui la population leur a donné le pouvoir, en qui la population leur a mis leur confiance. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire systématiquement que c'est un recul pour la démocratie, parce que vous le savez très bien que voilà, la définition de la démocratie peut différencier d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Lorsqu'il y a des questions de malgouvernance, lorsqu'il y a des questions de népotisme, lorsque le peuple se voit marginalisé, et donc ça au peuple de reprendre le pouvoir. Et donc, lorsque le pouvoir qui a été confié à un parti politique, à un homme d'État, est contesté dans la rue, bah, généralement, c'est les militaires qui prennent le relais.
Mais ce n'est pas le cas, par exemple, au Soudan.
C'est pourquoi j'ai dit...
Au Soudan, les militaires ont confisqué le pouvoir, mais le peuple, les civils ont décidé que le pouvoir leur revienne, mais ça pose problème.
Mais c'est à quel prix? Vous voyez tout ce que ça donne. C'est tout le désordre que cela engendre. C'est pourquoi aujourd'hui, la question du modèle démocratique que nous devons adopter, la question de bonne gouvernance, tout de suite doit s'en suivre pour éviter le chaos que le Mali vit aujourd'hui, pour éviter le chaos que le Burkina Faso vit aujourd'hui, pour éviter le chaos que la Guinée est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, c'est une question qui nous interpelle tous et ça doit faire réfléchir tout le monde, notamment dans les pays où les questions de bonne gouvernance peinent à se faire entendre.
Voilà, Monsieur Bozang, sur cette question des coups d'État en Afrique de l'Ouest ces derniers temps.
Oui, Armando, moi je crois, je faisais un peu allusion au printemps arabe qui avait eu lieu en 2011 ou bien là où on a vu l'Égypte, la Tunisie, tout était parti de la Tunisie avec le jeune Ibouzi, si je maîtrise bien son nom, qui s'était immolé à cause de la situation précaire, la situation sociale précaire dans laquelle j'appellerai le bas peuple vit. Et un jeune qui ne pouvait pas supporter, il s'est immolé et ça a déclenché ce que nous appelons le printemps arabe en Afrique du Nord. Et si on revient à la situation de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai, il y a une différence, mais il y a un danger qui est, moi je dirais, il y a un danger qui est en train de guetter l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la militarisation du pouvoir et l'ambiguïté avec ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Prenons le cas du Mali, ils prennent le pouvoir, mais ils ne veulent pas dire clairement au peuple leur intention. Et donc du coup, il y aura un moment aussi où ces mêmes militaires risqueront d'être chassés du pouvoir par le même peuple qu'ils pensent qu'ils viennent libérer. Parce qu'on a vu avec le Mali, au début, ils ont annoncé une transition de 18 mois, mais par la suite, ils ont dit non, 18 mois c'est insuffisant, on veut la refondation. C'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'on veut la refondation en 5 ans, alors que vous n'êtes pas légitimement le pouvoir élu par le peuple. Même si vous avez l'applaudissement du peuple, ce même peuple qui vous applaudit aujourd'hui, après 1 an, 2 ans, verra que vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez décidé de faire, ce même peuple-là reviendra vers vous.
Voilà, donc, c'est votre point de vue. On écoute M. Doneng. Je rappelle que vous représentez les jeunes du pouvoir, du gouvernement dans ce débat.
Ok, merci beaucoup M. Armando. On essaie de lorgner ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest. Moi, j'apprécie ça sur 2 angles. Premièrement, c'est d'abord le ras-le-bol du peuple ouest-africain. Ce peuple veut tourner son regard vers un avenir radieux. C'est-à-dire en s'inspirant du modèle centrafricain qui a pu mettre hors du parage les terroristes, je vais dire, parce que la CPC, c'est des terroristes. Donc ces peuples ouest-africains se sont rendus compte que voilà, le modèle centrafricain pourrait être un avantage pour eux. Et c'est dans ce sens qu'ils essaient de pousser au fait leur leader, mais qu'ils ne réagissent pas tôt. Et puis, avec le soutien de l'armée, ils finissent par débouter leurs dirigeants. Mais de l'autre part, moi, je n'apprécie pas ça. Ce n'est pas digne pour notre jeune démocratie en Afrique. Parce qu'on ne va pas continuer avec cette démocratie de la rue pour renverser à chaque fois le pouvoir. En tant que tel, il faut passer par les urnes. Donc c'est vraiment une question qui nécessite beaucoup de méditation, beaucoup d'analyse pour essayer d'apprécier et définir des formes.
Lorsque vous parlez du modèle centrafricain, vous voulez dire quoi par là ?
Le modèle centrafricain, parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans la rue, quand le peuple malien manifeste, il lance un appel au soutien de la Russie. Il lance un appel au déploiement des militaires russes, je veux dire, pour appuyer l'armée malienne à combattre les terroristes. Et c'est ce que nous avons vécu ici à un moment, parce que le président était sage. À un moment, il y a les groupes armés qui ont pris les rênes du pays pendant un temps record, qui tuent le peuple centrafricain, qui font des massacres à ciel ouvert. Mais quand le président Ouattara a compris qu'il faut tendre la main à un partenaire stratégique qu'est la Russie, et effectivement, on a vu la réponse en moins de 6 mois, je vais dire en moins de 6 mois, plus de 95% du territoire national libéré, et dont on est en train d'achever la suite en ce moment.
Monsieur Maceo, qu'en dites-vous sur cette question de coup d'État en Afrique de l'Ouest ces derniers temps?
Armando, je pense que quand on parle de coup d'État, il faut directement comprendre qu'il y a un ras-le-bol quelque part. Et c'est pourquoi le peuple malien et le peuple guinéen, burkinabé se sont levés pour dire non à la dictature de ceux qui les gouvernent. Alors, moi, parlant de la démocratie, il faut comprendre que toute prise de pouvoir par force est anticonstitutionnelle et antidémocratique. Alors, applaudir les coups d'État en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, ça revient à encourager la prise de pouvoir en Afrique dans tous les pays africains. Alors, c'est ce que aujourd'hui, nous, jeunes Africains, on doit essayer de chercher à mettre en avant cette clairvoyance-là pour promouvoir cette jeune démocratie que nous sommes en train de vivre à peine 60 ans.
Revenons à notre mouton avec cette première question à vous, M. Maceo. Je reste avec vous. Vous dites que le dialogue républicain doit être inclusif. Que voulez-vous dire par là?
Je pense que l'inclusivité de ce dialogue que l'opposition démocratique réclamait depuis avant les élections couplées de décembre, il faut comprendre que même dans une famille, quand il y a un problème, il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens essaient d'échanger pour voir ce qui ne va pas et pour essayer de recadrer le dynamisme de la famille. Alors, l'inclusivité de ce dialogue, je reviens dessus. Si vous voyez aujourd'hui, il y a deux pôles qui sont en train actuellement de se tirer entre eux. Nous avons d'abord le gouvernement et nous avons le groupe armé. Mais aujourd'hui, si le gouvernement dit on veut seulement discuter ou soit dialoguer avec l'opposition qui n'avait pas pris d'armes, mais ceux qui ont pris les armes, qu'est-ce qui les a poussés à prendre ces armes? Ils doivent parler, le peuple doit écouter pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Comme ça, ça permettrait à ce que tous les filles et fils du pays se réunissent pour essayer de dégager une solution durable. Mais si aujourd'hui, on parle de dialogue, et en même temps, on essaie de faire encore la chasse aux sorciers. Dire, bon, on va essayer de nommer ceux qui doivent participer à ce dialogue. Et il y a même des moteurs, c'est-à-dire des moteurs. Quand je parle des moteurs, je parle de ces quatre députés de l'opposition qu'aujourd'hui, le pouvoir veut coûte que coûte les enlever au niveau de leur siège à l'Assemblée. Mais ceux-là, eux également, ils pèsent dans ce dialogue. Mais si on dit aujourd'hui, un Ziguélé ne peut pas dialoguer, un Anissé Georges de Léguélé ne peut pas dialoguer, un Karim Mekassoua ne peut pas dialoguer, un Zingas ne peut pas dialoguer, mais avec qui on va faire ce dialogue? Si c'est vraiment un dialogue pour essayer de ramener la paix définitivement. C'est la question que je me pose.
Monsieur Doningue, la question d'inclusivité des acteurs politiques est le nœud du blocus du processus du dialogue. Est-ce que le gouvernement a vraiment la volonté de faire avancer les choses?
Même le président Touadéra, en signant le décret portant mise en place du comité d'organisation du dialogue, c'est déjà un acte de bonne volonté. Ça ne demande pas une embolie. Que le peuple centrafricain va au dialogue. On essaie d'apprécier les choses. Si aujourd'hui on essaie de rendre compte, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème de conscience qui nécessite à ce que nos hommes politiques puissent prendre les responsabilités. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de voir autour de ce plateau aujourd'hui des jeunes qui représentent la nouvelle génération émergente en train de réfléchir autour d'une table sur des questions concernant l'avenir de la République centrafricaine. C'est un acte que moi, autant même directeur de cabinet au ministère de la Jeunesse Sport, je tiens à féliciter, à vous jeter des fleurs. Essayons de voir la chose. Qui a boycotté le processus de dialogue en cours? Vous avez bien fait de poser la question à M. Ephrem, qui est le représentant de l'opposition autour de la table. Parce que moi, j'aurais bien souhaité que cette question commence par lui. Et il a essayé de nous expliquer, mais il n'a pas encore donné tous les détails en tant que tel. On veut avoir des détails, des précisions. Pourquoi l'opposition a boycotté le dialogue?
Mais l'opposition a déjà donné des explications. C'est parce que des procédures de la levée d'immunité parlementaire des leaders d'opposition, de l'opposition démocratique, c'est ça qui a provoqué tout cela.
Voilà. Donc, exactement, vous allez vous rendre compte que ce que je viens de dire au début, il y a une question de prise de conscience. Parce que si vous allez vous rendre compte que...
Prise de conscience de la part du gouvernement ou bien de la part de l'opposition?
Je suis en train de parler.
Non, mais il faut que vous
soyez... De la part de l'opposition.
Ah bon?
Oui, de la part de l'opposition. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la République centrafricaine est en train de vivre une crise de gouvernance. Les gens ne veulent pas respecter les textes dans ce pays.
En commençant par le gouvernement, bien sûr.
Il y a la loi qui existe.
En commençant par le
gouvernement. Il y a la loi qui existe. Les gens ne veulent pas respecter les textes. C'est le respect de textes qui a engendré à ce que la RCA soit plongée dans cette fourre, dans ce chaos. Imaginez. Une rébellion qui a mobilisé des terroristes et qui sont venus, qui ont assailli le territoire national, qui tuent des peuples centrafricains, qui massacrent le peuple centrafricain à ciel ouvert.
Mais cette rébellion a été fabriquée par M. Doning.
Calmez-vous, prenez note, vous allez revenir.
Vous êtes donné l'occasion.
Bien sûr.
Calmez-vous.
J'aimerais que
monsieur de parler.
Parce qu'il faut que monsieur Doning comprenne.
Monsieur Armando.
Excusez-moi, monsieur Doning,
vous souffrez, prenez note, et puis vous allez rebondir après. Allez-y, monsieur Doning.
Il y a une rébellion qui est venu, qui a massacré le peuple centrafricain. Soutenu par ces rebelles en col blanc, je veux dire. La classe politique qui ne cesse de tirer au bas de l'échelle, la rébellion centrafricaine.
Mais la précision de ce que M. Doning est en train de dire tarde à venir.
Prenez votre main à la patience.
Non, il est en train de
chronomètre. J'ai le chrono ici, je regarde, je surveille le temps est parti.
On va se comporter de la
même sorte.
Donc, voilà aujourd'hui qu'il est question d'aller au dialogue. Mais ce dialogue ne va jamais ramener ces criminels au col blanc. La justice doit faire son travail. Parce que nous sommes dans un état de droit. Si aujourd'hui il s'agit que quiconque qui pose un acte contraire à la loi, c'est interpellé devant la loi. Mais je ne sais pas pourquoi.
La question de la justice.
S'il vous plaît, vous avez donné votre point de vue. Vous deux, on va écouter les autres. Je donne la parole à vous, M. Bozang. Parlons des acteurs. Pensez-vous que si le dialogue était tenu sans la participation des acteurs clés de la crise actuelle, est-ce qu'il y aura véritablement la paix?
Armando, merci beaucoup. Mais moi, je crois, si nous parlons du dialogue, ici, un dialogue se passe entre deux parties. On ne peut pas parler d'un dialogue unilatéral. Parce que quand on est unilatéral, dans le sens que si nous écartons le parti d'où le conflit est venu, le problème est venu, et que nous disons nous ne pouvons pas discuter avec cette partie-là, du coup, on n'aura pas un dialogue effectif. Je ne dis pas que la justice ne doit pas faire son travail. Mais pour un dialogue effectif, il faudrait que même celui dont on pense que c'est l'ennemi, c'est la cause du problème, il faut lui donner le temps de l'écouter. Une fois l'écouté, parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un conflit, c'est pour dire qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a toujours un problème, d'où la naissance du conflit. Maintenant, le dialogue n'exclut pas l'application de la justice. Mais il faudrait que nous étudions bien le moment. Il y a un adage qui dit « on peut faire chemin avec le diable le temps de traverser le pont ». C'est-à-dire permettre que cette réconciliation revienne, que ce dialogue effectif ait lieu, inclure tout le monde, y compris l'opposition. Et quand nous verrons que les choses, la paix est revenue dans le pays, les textes ne pourrissent jamais. Si la justice doit faire son travail, plus tard, la justice peut faire son travail. Parce que la situation actuelle de la Centrafrique ne nous permet pas d'entrer dans ce bras de fer. Ce bras de fer-là ne profite même pas au peuple centrafricain. Vous-même, vous allez vous rendre compte. Donc, du coup, les deux côtés et l'opposition et le parti au pouvoir, les deux, moi, je dirais, sont à la cause de ce blocus du dialogue. Parce que chacun veut que ce dialogue soit en son intérêt. Quand je vois le parti au pouvoir, par exemple, dire « bon, allez, ce sont les leaders, nous pensons que ce sont eux qui sont à l'origine du conflit, on ne peut pas dialoguer avec eux parce que c'est les diables ». Ça, c'est le parti au pouvoir. Mais l'opposition dit aussi ben « moi, pour que je participe, puisque tu penses que je suis le mal, ben, voici mes conditions encore ». Et donc, du coup, chacun tire la ficelle de son côté et c'est le bas peuple qui en souffre. Et donc, pour moi, j'inviterai les deux parties à une concertation afin que ce dialogue-là soit effectif et durable, parce qu'on veut pas, on a vu tas de dialogues. Si je prends 2015, il y a encore les textes qui ne sont même pas encore appliqués du dialogue de 2015. Et donc, du coup, il faut avoir le souci du peuple au cœur, revenir vers ce peuple-là, avoir son point de vue et inclure tout le monde afin que nous puissions avoir un dialogue effectif et durable pour ne pas que nous retombions dans la même situation.
Monsieur Beldo, nous savons que plusieurs forums ont lieu dans ce pays, mais d'après certains Centrafricains, rien n'a changé dans leur quotidien. Partagez-vous cet avis, monsieur.
Vous savez, la question du dialogue politique est très sensible parce que, comme l'avait souligné mon prédécesseur, il s'agit de réunir des gens qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de points pour que ces gens puissent discuter, échanger. Quelle est la voie à suivre désormais? Nous le savons très bien qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de dialogues dans ce pays. On a eu beaucoup de textes qui ont été rédigés à la fin de ces dialogues, mais l'applicabilité pose problème. D'accord? Et donc, il se pose aussi une question de coût en ce qui concerne ces activités. Le dialogue a un coût. C'est des activités budgétivores que le peuple centrafricain doit supporter. Et les conclusions, généralement, sont le partage du pouvoir entre les participants à ces dialogues. Et c'est ça la vraie réalité de ce pays. Vous voyez, le problème qui se pose, c'est que le pouvoir en place n'aime pas la tête d'un certain nombre de personnes. L'opposition aussi n'aime pas la tête d'un certain nombre de personnes. Et du coup, on se retrouve dans une situation de bras de fer. On pense que si tel est là, mon intérêt ne sera pas garanti. Parce que la question qui se pose à la fin du dialogue, vous allez voir où il y aura des belles résolutions, mais en fin de compte, ce qui sera mis en œuvre, c'est le partage du pouvoir. Non, tel membre de l'opposition, tel nombre de membres de l'opposition vont aller entrer dans le gouvernement, on va donner des directions générales à l'opposition, etc. Et puis c'est tout. Mais la résolution du vrai problème qui était à l'origine de ces dialogues, ben on ne s'en souvient plus. Et 5 ans ou 3, 4 ans après, on revient à la même situation. Crise, dialogue. Voilà, on va aller du dialogue en dialogue. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est ce blocage que vous évoquez. La question de la justice, le Dirkab a évoqué comme quoi le pouvoir en place est réticent de faire participer un certain nombre de membres de l'opposition à ce processus. Quand on veut parler de la justice, à ce que je sache, aucun membre de l'opposition démocratique n'a été formellement inculpé par la justice. Et donc, sur le plan du droit, ils bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et donc, ils peuvent encore, d'accord, jouir de tous leurs droits civiques, notamment la participation à la vie politique du pays. En tant que députés de la nation, peut-être ils ont un mot à dire dans ces dialogues. Et donc, nous, en tant qu'observateurs, on serait plus à l'aise de les voir aussi pendant ces dialogues. Et je crois que c'est la ferme résolution du président de la République. Quand je l'écoute, nous, j'essaye un peu de décrypter le sens du message que le président de la République lui livre. Il est dans cette dynamique-là. Mais peut-être qu'il y a un certain nombre de caciques du pouvoir en place qui ne sont pas toujours d'accord. Parce que vous le savez, que le pouvoir, c'est un système. C'est vrai que le président de la République, il est là, mais c'est tout un système. Et mais, c'est ça, en fait,
le vrai problème. Mais on y revient, mais si le dialogue, il y a, quel est le ferment qui s'y est par rapport, par rapport avec la situation actuelle du pays? D'abord, M. Donné.
On est sur la très bonne voie. Le chef d'État a pris une initiative d'organiser un dialogue républicain qui va inclure toutes les causes sociales. Il y a la jeunesse, les confessions religieuses, la société civile, les femmes et autres. De quoi toutes les couches sociales sont trafiquaines, sont incluses. Il y a aussi la classe politique. Aujourd'hui, c'est la classe politique ténace qui veut toutefois boycotter le processus en tant que tel, mais on est sur la bonne voie. Du fait que la priorité nationale actuellement, si vous essayez d'aller au fin fond du quartier, vous allez vous rendre compte que la priorité du peuple sont trafiquées, c'est pas cette histoire de dialogue. Le peuple a sollicité la foi de notre président Touadéra de libérer, de pacifier le territoire national. Et aujourd'hui, avec le déploiement progressif de nos forces armées sont trafiquées sur le territoire national, je vous informe, à l'heure-ci, les quatre coins de frontières de la République centrafricaine sont occupées par les forces armées centrafricaines. Essayez d'aller vers Kakabandoro en sortant pour aller vers Kabo, vous allez voir la présence des forces armées centrafricaines à travers Berberati. Vous allez voir la présence des forces armées centrafricaines à l'est vers Obu Haute. Les forces armées centrafricaines occupent actuellement l'étendue du territoire national. Nos parents, les cultivateurs, commencent à regagner leur village et répondre à leurs activités quotidiennes, activités champrennes. Et c'est ça la priorité du peuple centrafricain. Aujourd'hui, nous devons seulement nous converger vers des défis d'ordre économique. Je crois que c'est autour de ça que même ce dialogue devait être s'atteler tout autour. Hein. Des questions d'ordre économique, des questions d'ordre politique, scientifique, ainsi de suite. C'est de cette manière qu'on voulait voir ce pays. Parce qu'aujourd'hui, la priorité n'est plus au partage de gâteaux, comme a dit mon frère Beldo. La priorité n'est plus au partage de gâteaux. Parce que ce dialogue, la récurrence de ce dialogue, a toujours démontré de A à plus B que ce n'est que le partage du gâteau. Tous ces gens qui revendiquent actuellement le dialogue, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, c'est le partage de gâteaux. Donc, je voudrais bien souhaiter que la forme de ce dialogue soit bien.
Merci, on va vous répondre tout à l'heure.
Ce n'est que le partage de gâteaux. Parce que ces gens, vous allez voir le processus, c'est comment. Je crée une rébellion. Je m'oppose à un pouvoir en place. Je le destitue. Je prends les rênes du pays. Je partage les butins à mon équipe. Demain, l'autre, les frustrés, ils se reconstituent. Ils viennent. Ils destituent. Et si vous allez voir cette récurrence depuis plus de 60 ans. On a grandi dans cette crise. Ça fait que cette crise est pour nous une école parce qu'on vit ça dans nos chairs tous les jours. Et on comprend que vraiment, il est temps de mettre un terme à ça. Il faut respecter les tests dans ce pays. La crise de répression trafiquée est une crise de gouvernance. Chacun doit rester dans son corps. La question de lever de l'immunité de certains députés, ça c'est le problème interne au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ont offert à la justice. Et aujourd'hui, la justice a sollicité. C'est des questions d'institution à institution. Ça n'a rien à voir pour que, on se constitue comme
un... Mais si vous le dites, mais quel est le commentaire que vous pouvez faire sur la situation d'Hassan Bouba, par exemple?
La situation de Hassan Bouba, la situation d'Hassan Bouba, c'est une question de...
La justice,
de justice, oui. C'est une situation de justice.
Pourtant, tout à l'heure, monsieur
le directeur parlait de... Je vais en venir. La situation d'Hassan Bouba, c'est une situation de justice. Jusqu'à là, Hassan Bouba n'a pas pris part au Conseil des ministres. Ça veut dire que Hassan Bouba est toujours sous mandat judiciaire.
Il a régalé son bureau, moi.
Non.
Il a travaillé.
Non, moi je ne l'ai pas vu dans
il
ce bureau.
Il continue de percevoir son salaire.
Non, moi, je ne l'ai pas vu. Comment vous avez su?
Mais Armando, je voudrais demander au DIRCAB, monsieur, acceptez
la question et puis monsieur, on évolue. Monsieur Donning.
Est-ce que monsieur Hassan Bouba a été limogé officiellement déjà en tant que ministre?
Ça, c'est la belle question que j'ai attendu.
Le limogeage d'un membre du gouvernement, c'est un processus.
Quel processus?
C'est un processus. Prenez votre mal en patience. Le limogeage d'un membre du gouvernement.
Mais vous nécessitez
des
enquêtes. Je crois que vous avez
parlé.
S'il vous plaît.
C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence.
On poursuit le débat. Des dialogues ont lieu dans ce pays. Dans la plupart des cas, c'est le partage des postes, comme vous l'avez déjà dit, de gâteaux et autres. N'est-ce pas là une crainte pour le gouvernement, M. Massillon?
Merci, j'attendais ce moment vraiment depuis. Armand, je pense que quand le pouvoir en place était parti, autant pour moi, à Khartoum, avec les gens qu'ils appelaient des partenaires, qu'on avait fait leurs photos, leurs effigies collées un peu partout, on voyait Ali Daras.
Qui sont ces partenaires?
Mais c'est le partenaire de votre système. Quand on voyait,
prenez
note, mais calmez-vous.
Les preuves sont flagrantes. Heureusement que l'émission,
je vous retire la parole.
Je me rends compte qu'il y a un manque de sérieux.
Là, je viens d'appuyer sur un point. Je viens d'appuyer sur un point.
Calmez-vous.
Les questions d'aide nationale,
monsieur le directeur, souffrit.
Avec beaucoup de
mais est-ce que vous pouvez calmer? Vous pouvez vous calmer pour l'écouter d'abord.
Quand on parle de partenaires, on rit.
Monsieur le DIRCAP souffrit.
Parlons de la nation.
Prenez note, vous allez répondre après.
Monsieur le DIRCAP souffrit.
Laissez-le continuer, allez-y.
Vous étiez à Khartoum avec vos partenaires, Ali Daras, Al Khatim, et j'en passe.
Non, vous faites l'ironie.
Quand vous étiez là-bas, l'opposition n'a pas pris parole. Vous avez discuté entre vous. Vous partagez les gâteaux entre vous. Vous rentrez à Bangui. Vous les avez nommés. On les a payés avec l'argent du peuple centrafricain. Il fut des conseillers à la présidence, il fut des conseillers à la primature. Mais ne venez pas dire de n'importe quoi devant le peuple, monsieur Donin. Écoutez, peuple nous suit. Le peuple nous suit. Vous êtes encore jeunes. Ne vous alliez pas derrière ces vieux papas qui sont en train de gager notre vie.
Mais si vous dites ça, si aujourd'hui, la levée de l'immunité de Delegue, à quoi avoir avec vous? Si vous parlez de succès vieux papa, la limite du mythe de Delegue,
je me bats sur les preuves.
Non, vous ne devez pas être là pour dire ça.
Je me bats sur les preuves.
Si on est sérieux,
je me bats sur les preuves. Actuellement, le dossier de cette levée,
vous allez
et ça, c'est une décision politique, c'est pas juridique, parce que le dossier, il est vide.
Si on veut parler,
le dossier est vide.
Si on veut parler,
maintenant, j'en viens.
Monsieur Denain, vous perturbez le débat. Vous prenez note, vous allez répondre.
Mais c'est parce que Monsieur Denain sait que. Il est en train de réagir à tort. Il est en train de réagir à tort. Parce que moi, je me fonde sur les preuves. Aujourd'hui, si cette émission...
S'il vous plaît, calmez et si vous prenez note, comme ça, vous allez répondre.
On allait brandir les images de vos salutations, les images de vos fêtes au niveau de Khartoum. Ça, c'est le dialogue que vous avez fait entre vous. Tout à l'heure, vous dites qu'on a fait beaucoup de dialogue dans ce pays. Bien sûr. Mais le dialogue qu'on avait fait récemment avec Samba Panza, qui était censé diriger les FIF, les lignes dictées par ce dialogue, n'est-ce pas le gouvernement en place? N'est-ce pas le pouvoir en place? Mais où en sommes-nous actuellement? Est-ce que vous avez suivi les recommandations qui ont été faites dans ce dialogue? Non. Arrêtez de tromper le peuple centrafricain, monsieur Donné.
Je donne la parole rapidement. Mais non, c'est pas entre vous deux. Vous prenez note. S'il vous plaît. Je donne la parole à monsieur Beldo parce que vous avez terminé. J'ai chronométré. Vous voulez réagir tout à l'heure sur certaines questions.
J'ai deux points sur lesquels je voudrais revenir en écoutant le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse. Il évoquait comme priorité qu'il devait avoir le dialogue national, les questions politiques, les questions économiques et la question de gouvernance. La question de gouvernance, je commence par là. Je crois que le président de la Haute Autorité des Bonnes Gouvernances, qui finit son mandat presque déjà, avait donné une conférence de presse et parmi tant d'autres questions qu'il a reçues, pourquoi ne pas rendre les conclusions de ses travaux publics? La réponse a été sans appel. Que les conclusions de ces rapports sont remises aux hautes autorités. Et c'est aux hautes autorités d'en faire bon usage. Et je crois que ça dit tout pour les questions de gouvernance. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été... Il y a du travail sérieux qui a été fait, mais que les gens n'ont pas pu prendre les résultats pour pouvoir travailler avec. Donc aujourd'hui, s'il y a question de mauvaise gouvernance, il ne faut pas accuser les autres. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui devez utiliser les instruments de l'État pour pouvoir... mettre de l'ordre dans la gestion des choses publiques. Quant à ce qui concerne la priorité à donner au dialogue, je ne crois pas que les questions économiques soient une grande priorité. Parce que le système en place déjà a une politique économique qu'il met en œuvre. Donc pas besoin encore d'aller s'apesantir sur les questions économiques pendant le dialogue national. Alors qu'on sait que le nœud du problème, c'est une question sécuritaire. Alors je suis d'accord avec vous quand vous dites, parce que c'est vous qui avez les chiffres, les bons chiffres, vous imaginez, monsieur le DIRCAP, que 95% du territoire est sous le contrôle.
C'est même 98 déjà. Je veux
voilà, 98, 100. Très bien.
Ouais, 98.
Sous contrôle des FACA, si cela s'avère vrai, c'est à applaudir. C'est une chose. Mais une autre chose, puisque vous avez déjà le contrôle du territoire national, donnez l'occasion à tous ceux qui veulent participer au dialogue de venir. Parce qu'on suppose que l'État a le monopole de la force publique. Voilà, d'accord. Ceux qui veulent venir au dialogue, il faut les faire venir. Après le dialogue, si la justice veut faire son travail, puisque l'État a le contrôle du territoire national, qui va échapper à l'État? personne, d'accord? Donc, il n'y a plus question de dire que ben, on laisse, on va débouter certaines personnes du dialogue et laisser d'autres venir au dialogue.
Je vais le répondre.
C'est moi qui donne la parole. S'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole.
Un mandat d'arrêt lancé déjà contre ces personnes. Donc, quoi que l'on soit, on va les arrêter. C'est tout.
Mais je vous dis,
c'est un mandat d'arrêt. C'est tout.
C'est moi qui donne la parole. On écoute hein? M. Bozang d'abord.
Oui, M. Armando, moi je crois le dialogue vers lequel nous allons. Je crois que vous avez demandé à Oudir Kabissier quel est le format que le gouvernement voudrait donner à ce dialogue. Il a essayé d'étaler les priorités. Mais je crois, dans tout ce que le Dirka vient de dire, une fois de plus, je reviens vers le peuple. Je reviens vers le peuple. Nous avons eu des dizaines de dialogues, des dizaines de textes rédigés qui résultent de ces dialogues. Mais si nous essayons de parcourir tous ces textes-là, vous verrez que le peuple, le centrafricain lambda, dans l'arrière-pays, n'a rien à voir même avec ce qui se décide ici. Et donc, du coup, moi, le format que je pourrais proposer au gouvernement, et j'en proposerai même au DIRCAB ici, il faut que nous essayions de changer de terme. C'est-à-dire, je voudrais que nous ayons ce que moi, j'appellerais le dialogue décentralisé. Décentralisé dans le sens que on ne va pas attendre seulement, bon, on a décidé du jour, allez, les délégués, Mambéré KDI, on veut 10 personnes. Nana Mambéré, 10 personnes. Sangam Bayré, 10 personnes. Vous venez, on va les loger dans de bons motels là, ou bien dans de grands hôtels. Chacun a son enveloppe, il mange bien, il dorme bien. Le jour où on se retrouve, ça sera du blablabla. Allez, bon, allez, le secrétariat, c'est là où tout le monde va bouffer encore. Mais il faudrait que ce dialogue-là, on commence d'abord, je crois, si on commence à organiser.
À la base.
Hein. À la base, merci beaucoup, c'est le terme. À la base, c'est vrai, au temps de Catherine Samba Panza, l'ancienne présidente de la transition, on parlait de la consultation à la base. Mais moi, je parlerai peut-être de mini-dialogue. Si on va dans la Mambéré KDI, par exemple, le préfet avec tout son entourage, organisé, on va faire des déplacements, chaque sous-préfecture, sous-préfet, organisez-vous là-bas, rassemblez vos leaders. Diagnostiquez les problèmes que vous avez dans votre région. Vous diagnostiquez ça, on remonte ça au niveau de la préfecture. Le préfet, maintenant, quand il va venir, il ne vient pas seulement avec le problème de Berberati, mais il vient avec le problème de la Mambéré KDI. Ça représente la population de la Mambéré KDI. Et du coup, les solutions, c'est vrai, on ne peut pas tout résoudre au même moment, mais le bas-peuple va se sentir dans certains points qui seront évoqués lors du grand dialogue qui va avoir lieu. Je n'en ai pas encore terminé, donne-moi une minute. De là maintenant, le bas-peuple va voir, il va exprimer. Parce qu'on pense tout est argent, tout est pouvoir ici, tout est bangui. Mais quand moi je vois la situation, les priorités, c'est vrai, on a la sécurité. Mais je parlerai de la politique du sac vide. Quand on a un sac vide, est-ce que ce sac-là va tenir debout? Nous avons la sécurité, oui. Mais quelles sont les autres conditions qui doivent maintenant renforcer cette sécurité? La situation de la route, par exemple. La situation économique. Le marché, quand moi j'envoie ma femme, par exemple, au marché avec 100 000 francs, elle ne sait quoi acheter. On ne peut même pas manger deux fois par jour. Donc il y a un sérieux problème. Et du coup, si ce dialogue ne prend pas en compte le peuple centrafricain, les besoins de base du peuple centrafricain, je vous assure, il y a un autre conflit latent qui est là. Et là, ça sera le peuple qui va agir.
30 secondes rapidement pour qu'on donne la parole à monsieur et puis on évolue.
Oui, moi je suis un peu concret. Je ne pense pas que le meilleur format soit de décentraliser le dialogue en donnant le pouvoir, le mandat au préfet ou au sous-préfet qui sont les représentants légitimes de l'État pour aller... Voilà, vous allez voir que ce sont les mêmes impressions de l'État qui va revenir. Ok? Donc, il y a déjà des représentants, des élus de la nation qui existent dans les différentes circonscriptions de la République centrafricaine. Ce sont les personnes les mieux positionnées pour dire qu'est-ce que le peuple vit dans leur circonscription. Cela ne doit pas revenir au préfet ni au sous-préfet.
Je rebondis.
Ils sont les
représentants. Il y a certains élus qui, une fois élus, ils sont tout le temps à Bangui. Oui. Ils ne connaissent même pas les problèmes de leur circonscription. Mais ceux qui sont sur place savent et ils maîtrisent les réalités de la population.
Oui, finissez, monsieur.
Les leaders locaux.
Et voilà. Quand je parle, par exemple, des élus de la nation, ça peut être valable pour les leaders locaux et non les responsables politico-administratifs qui sont les représentants du pouvoir en place. Ça ne donnera pas beaucoup de crédit.
Monsieur Masséou.
Armando, si vous permettez, je dois préciser que quand j'énonce le préfet et autres, je parle sur le plan organisationnel. C'est-à-dire qu'ils ont ce pouvoir, mais ce n'est pas eux qui vont aller parler, non. C'est juste pour coordonner, parce qu'à la fin, Le préfet, par exemple, il représente l'autorité de l'État, ça c'est vrai.
Oui, mais ça c'est bon. Ça, vous l'avez déjà évoqué, oui, voilà. Monsieur,
ça sera la même pièce, mais avec les décors différents, ce que vous êtes en train de dire. Je reviens sur ce que monsieur le DIRCAB avait dit tout à l'heure, je l'avais suivi avec beaucoup d'attention, quand il parlait de la sécurité. Moi, je vais dire à monsieur le DIRCAB d'aller faire un tour sur le site de Web Relief avec le récent rapport de OSHA. On a à peu près 344 incidents sécuritaires qui s'est produit entre janvier et décembre. Là, je parle sous le contrôle d'un humanitaire ici.
On a
5 civils tués par jour. Mais l'exemple est patent. Bon, là, je laisse la question du rapport de ONG. L'exemple est patent. Est celui de la fête de Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qu'on avait vu à la veille de Nouvel An? Il y avait des crépitements d'armes partout. Il y avait 6 personnes qui ont perdu la vie. Ça, vous parlez de la sécurité avec des crépitements d'armes un peu partout à la tchadienne? Non, mais je suis vraiment désolé. Et tout à l'heure, quand M. Donen parlait de dialogue républicain,
quelques secondes.
On en a marre de ce dialogue républicain. On veut un dialogue inclusif pour ne pas que le même scénario qui s'est produit à Khartoum avec leurs partenaires là revienne encore pour que dorénavant les gens vont encore parler. Pour dire que non, un autre dialogue de plus, ça sera trop. Donc ce dialogue-là doit être inclusif avec tous les filles et fils du pays, sans distinction. Et avant ce dialogue...
Quelques secondes.
Avant ce dialogue-là, nous aimerions à ce que la décision politique, je ne dirais pas juridique, hein, la position politique de la levée de l'immunité-là soit annulée. Parce que... pour le moment, les gens qui sont en face, je voudrais parler là de pouvoir en place, ils ont peur parce qu'ils savent que l'opposition est une opposition forte actuellement. Dû la politique de laisser certains caciques de l'opposition de côté et aller avec leurs partenaires là pour dicter leurs lois. Ça, on ne peut pas accepter ça.
Monsieur Donnay, je vous donne la parole. Vous avez 1 minute 30 pour répondre rapidement pour qu'on puisse écouter le président de la République sur l'idée de ce dialogue.
Merci beaucoup, monsieur Armando. On profite seulement de jeter des fleurs à nos compatriotes qui viennent de me précéder.
Non, mais partout, vous jetez des fleurs, des propositions ont été faites.
C'est pourquoi j'ai dit au début, il y a... Si, c'est-à-dire on laisse le bas peuple s'exprimer, c'est-à-dire il y a la vérité qui sort. Vous voyez ces initiatives, ces propositions faites par ces mes compatriotes jeunes ici.
Moi, mais ça, vous avez reçu combien de propositions?
Ça me va directement au cœur.
Combien de propositions le gouvernement a reçu?
C'est de cette manière qu'on pourrait se faire passer à un comité.
Monsieur Maceo, vous avez terminé votre temps, vous l'écoutez.
Si... l'opposition, un autre opposition, l'opposition centrafricaine qui manque du sérieux. Je vois qu'il s'amuse. Ah, monsieur Armando, comme étant dit, même lui il est en train de répondre à ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qui empêche maintenant l'opposition de chercher à répondre leur place dans ce comité et faire des propositions, des questions de forme.
Est-ce que vous avez oublié cette
ce dialogue? Vous avez déjà tout dit, monsieur Maceo.
La justice,
je vous retire la parole, monsieur.
La justice doit faire son travail. C'est une question de gouvernance. Pourquoi? Je ne sais pas. Si, c'est-à-dire, on essaye de résumer à clair ce qu'on est en train de dire. Il n'y a plus rien à dire de ce plateau. Il y a une question de gouvernance qui pose le pays. Laissez la justice faire son travail. Prenez votre mal en patience. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur d'affronter la justice?
La justice doit faire son travail.
Pourquoi
libérer monsieur
Hassan Bouba?
Pourquoi M. Hassan Bouba regarde actuellement son bureau?
Mais qui vous a dit que M. Hassan Bouba est libéré?
Mais
Hassan Bouba est sous mon mandat
judiciaire. Vous me faites rire quoi? Vous me faites rire et vous me faites honte.
Est-ce que vous avez
M. Maceo, M. Donnay, je vous coupe les deux. Je vous propose un extrait du président de la République. Il s'adressait à la nation à l'occasion du nouvel an. Foussin Kantouadéra a dit ceci à propos du dialogue républicain.
Mes chers compatriotes, en ma qualité de symbole de l'unité nationale, je souhaite que le dialogue républicain soit l'occasion idoine pour exorciser le mal centrafricain et définir les priorités du développement de notre pays. Je tiens à dire qu'il ne doit être nullement l'occasion d'opposer les filles et fils du pays, les uns contre les autres. J'en appelle donc à la tolérance, à l'inclusion, à la concertation permanente et au dialogue afin de garantir l'unité nationale, la paix et la sécurité durement ébranlées ces dernières décennies. C'est pourquoi je salue le sens de responsabilité de toutes les forces vives de la nation, leur disponibilité à l'égard de la République et surtout le rôle qu'elle ne cesse de jouer dans la stabilité politique, la paix et la sécurité, ainsi que la réconciliation nationale.
Voilà, c'était donc le chef de l'État, Faustin Alcantara. Dira, vous avez suivi, hein, il a utilisé un verbe fort qui parle de exorciser le mal. Exorciser, c'est sous forme biblique, hein, pour chasser les démons de haine, de mécontentement dans le pays. Oh, mais aussi, le président a utilisé aussi des mots forts pour parler de l'unité, parce que l'idée de ce dialogue, c'est l'unité qui va donc provoquer la paix, le développement de la puissance africaine. Qu'en dites-vous, monsieur Beldo?
Je crois que le mot que j'ai retenu, qui pour moi est un mot fort dans le message, l'extrait du message du président de la République, c'est le mot tolérance. D'accord? Le président de la République, qu'il faut être tolérant. Ça donne une idée de la psychologie du président de la République dans ce contexte du dialogue. Il veut que tout le monde puisse y participer. D'accord? Maintenant, la question de la forme, qui doit participer, je crois que c'est là le vrai problème. Il est ouvert, il veut qu'il n'y ait pas de mécontents après ce dialogue, mais il ne veut pas aussi voir des gens qui ont été à l'origine du mal du peuple, qui est connu notoirement de tous, puissent être aux anges après ce dialogue. Voilà un peu l'idée du message du président de la République. Et donc pour moi, ce message donne une certaine garantie à ceux qui ont peur de la suite du dialogue. Je crois qu'après ce dialogue, normalement, tout devrait entrer dans l'ordre. Ceux-mêmes qui sont inquiétés, normalement, après ce dialogue, devraient retrouver le calme. Et donc, si j'ai une proposition concrète, à partir de ce message que j'ai écouté à faire au pouvoir en place, notamment au DIRCAP qui est là, ici présent, c'est de ménager de l'espace, de telle sorte que ceux de l'opposition démocratique qui veulent participer à ce dialogue puissent y participer.
Mais ils sont toujours là.
Parce qu'il en va, de la notion de tolérance dont le président de la République en fait l'éloge dans son discours.
Oui, monsieur Bozang, sur l'extrait du président.
Oui, monsieur Armando, je crois, en écoutant le chef de l'État, il exprime une très bonne volonté d'un père de la nation. Il a utilisé, moi j'ai retenu trois verbes qu'il a utilisés. Exorciser, comme vous l'avez dit. Il a utilisé le mot tolérance. Il a utilisé l'inclusion, de l'inclusivité. Ça, déjà en l'écoutant, on sent en lui ce désir de ramener la paix, de réunir le peuple centrafricain dans l'unité. Mais maintenant, le problème, c'est que, c'est encore comme mon prédécesseur vient de le mentionner, c'est quand on veut, si on veut la tolérance, si on veut l'inclusivité, et qu'on met encore en place un processus de choix, du coup, le mot que nous utilisons n'a plus son sens. Et donc, moi, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle au régime en place d'appliquer le mot que le chef de l'État vient d'utiliser dans son discours, la tolérance, et réunir tout le monde autour de la table afin que nous puissions avoir une paix effective et durable.
Monsieur Masséo.
Ok, merci beaucoup. Je pense que le gouvernement est en train de jouer au jeu de Tom et Jerry. Le président de la République a parlé de la tolérance, de l'inclusion. Cette inclusion-là, aujourd'hui, on est en train de chasser certaines personnes pour ne pas qu'ils participent.
Nous l'a chassé. Qui on a chassé?
Mais monsieur Donning, calmez-vous s'il vous plaît.
On a chassé. C'est pas le débat du quartier.
On a chassé des rebelles.
On
n'a pas chassé ce trafiquant. Ils sont tous abonnés.
Vous savez ce que vous allez dire parce que vous êtes en train de répondre.
On dit chassé. Vas-y, quand il dit chassé, ça veut dire moi.
Ça vous avez répondu. Vous n'aurez plus le temps de prendre la parole sur ce point alors. Allez-y.
Monsieur Donning, je dis un souffrez. Écoutez, vous êtes en train de jouer à un jeu de Tom et Jerry. Le président de la République, le président de la République a dit, il a parlé de l'inclusion. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains caciques du MCU qui veulent coûte que coûte écarter certains dix fils du pays à côté de la table de ce dialogue. Alors, c'est ça.
Faut les citer nouvellement, comme ça ils vous suivent. Voilà.
Non, mais ils me suivent. Là, je vais parler du président Anicet-Georges Doléguélé, je vais parler du président Martin Ziguélé, je vais parler du président Abdoukarim Mekassoua, je vais parler
dont vous faites allusion.
J'en viens, mais je vais parler, monsieur Denner. Moi, je parle son langue de bois.
Oui, bah, allez-y.
Maintenant, vous avez... quand on voulait partir à dialogue, au dernier moment, le président de l'Assemblée nationale avait fait sortir un dossier qui était vraiment vide, un dossier vide de sens, en brandissant ce dossier. Mais comme il a brandi le dossier, les gens se sont retirés de ce comité préparatoire et automatiquement, ils se sont rendus compte que
le retrait de ces 10 fils du pays peut emboîter le pas à ce dialogue. Automatiquement, il a pris une mesure de suspension. Non, nous, ce n'est pas la suspension qui nous intéresse, c'est l'annulation pure et simple de cette poursuite politique.
Vous avez fini. Juridique. Maintenant, vous avez la parole, M. Donin.
Merci beaucoup, M. Armando.
Calmez-vous pour que les gens nous écoutent.
Si j'essaie de résumer les interventions du jeune de l'opposition, je me statue sur trois points. Premièrement, il y a l'intention, il y a une aboulie, hein, une moctadie, une manifestation morbide de mauvaise volonté pour que rien ne marche dans ce pays.
C'est de ça que moi, je crie
d'aboulie. Deuxièmement, il y a l'intention de boycott. Ils sont en train même de boycotter le dialogue et le non-respect des textes.
Moi, je n'appelle pas ça dialogue, ça, oui, c'est
un
monologue.
Il cite, il
ça,
cite.
Ça, ce pas un dialogue.
Il cite, il cite.
Tout à l'heure, vous-même, vous vous plaignez du fait que quand vous parlez, on vous dérange. Calmez-vous et puis vous l'écoutez, parce que les gens nous suivent.
Il cite, quand il a cité des faits, c'est par exemple le cas, le contexte à l'Assemblée nationale. Ça, c'est des questions internes. L'Assemblée nationale est une institution.
Ça, c'est pas interne, c'est politique.
Hein? L'Assemblée nationale est une institution.
Excusez-moi, monsieur. C'est moi qui dirige par ce texte de base. Si vous prenez tout ce que nous disons comme de la blague, on peut suspendre le débat parce que ce débat a la portée internationale. Et les gens nous écoutent, les gens évaluent les jeunes centrafricains, les leaders politiques à travers ce que nous sommes en train de dire.
Parfait, monsieur Armando. Je vais en finir. Le non-respect des textes. Je viens de citer le troisième point parce qu'il y a l'aboulie, il y a l'intention de boycott, il y a le non-respect des textes. Est-ce qu'un problème concernant un certain monsieur Anissé Doléguélé ou qui à l'Assemblée nationale va directement impacter sur le dialogue national, le dialogue républicain voulu par le peuple centrafricain? Non. Le problème institutionnel au niveau de l'Assemblée nationale, c'est entre les députés. Si quelqu'un enfreint à la loi, à la justice lance une enquête contre elle et demande à cette institution de lever son immunité, ça c'est des questions d'ordre institutionnel. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt national.
Vous l'avez déjà dit, hein, des réactions écrites des auditeurs et internautes du débat Patara. Commençons avec celle d'un cadre du ministère du Tourisme sous l'anonymat. Selon lui, c'est le gouvernement qui bloque le dialogue en excluant les groupes armés, alors que ce sont les groupes armés qui continuent d'écumer la population de l'intérêt du pays. Il chute son écrit en disant que le gouvernement compte sur un calcul politicien en demandant à M. Sarandi de provoquer la levée d'immunité des poids lourds de l'opposition comme il avait fait pour Mekassoua, ancien président de l'Assemblée nationale destitué. Rich Mboïdéa pense que c'est le gouvernement qui bloque. Il devrait tout faire pour organiser ses assises pour le bien de ses compatriotes en conjuguant des efforts avec l'opposition. Lui, c'est un élève. Hein. Il dit que les élèves veulent seulement la paix pour bien étudier. Un autre internaute sous l'anonymat estime que c'est l'opposition qui bloque le dialogue républicain pour son propre intérêt. Il poursuit en disant que jusqu'à quand l'opposition va cesser avec ses mauvaises habitudes afin de permettre au pays d'émerger. Selon Cyriel, c'est l'opposition démocratique qui bloque ses pourparlers. Il justifie son avis en ces termes. C'est parce que le gouvernement interdit la participation des groupes armés. À l'occurrence, la CPC de François Bozizé. Passons maintenant aux réactions orales des auditeurs sur cette question.
Bonjour Armando. Quant à moi, je dirais que ce sont les deux qui bloquent ce processus du dialogue, parce qu'ils sont en train de tirer l'un de l'autre côté en excluant certaines personnes. Vous savez, le gouvernement veut faire le dialogue à des personnes dont il veut, mais pas à tous les Centrafricains. Prenons le cas de l'ex-président François Bozizé. Le gouvernement n'a pas besoin, il ne peut pas faire le dialogue avec lui. Et pourtant, c'est Centrafricain. Le gouvernement devrait appeler l'ancien chef de l'État de venir lui demander qu'est-ce qui a l'origine, qui l'a poussé de faire tout ce qu'il est en train de faire. C'est ça, moi je dirais, c'était juste ça quoi. En partant de ce dialogue, on devait mettre fin à toute chose. Soit disant, la rébellion doit cesser, les manigances.
Merci. Conformément au thème du débat Patara, qui bloque l'opposition au gouvernement? D'abord, le dialogue, c'est quoi? C'est une entente, c'est une concertation ouverte entre les partis, c'est-à-dire le gouvernement et l'opposition, au vu de trouver une solution à un problème donné. Alors, le dialogue doit être permanent selon son caractère. C'est l'un des moyens les plus pacifiques de résolution des conflits. Au lieu de prendre l'option militaire, de prendre l'option judiciaire, d'autres options qui ne sont pas appropriées et qui pourraient pérenniser la crise, le dialogue, c'est le meilleur moyen de résoudre très rapidement le problème. Je crois que les deux guerres mondiales que l'humanité a connues sont finies autour de la table. Donc, autour de la table, ça veut dire qu'il faudrait que les gens s'asseyent et discutent. La solution n'a jamais été au bout du canon. La solution n'a jamais été dans l'extrémisme. la solution n'a jamais été dans l'intérêt particulier. Donc, si nos dirigeants, l'opposition ainsi que le pouvoir, sont épris de l'esprit d'intérêt général, ils doivent sursoir à leur calcul politique et aller autour d'une table afin de trouver une solution pour que le peuple centrafricain puisse aspirer la paix.
Voilà, et puis ce sont les centrafricains, disaient d'ailleurs, qui ont réagi très rapidement sur la question du jour. Monsieur Donnet, je vous donne quelques secondes pour boucler avant qu'on fasse rapidement le tour de cette table sur les propos, sur les avis des centrafricains que vous venez d'écouter.
Merci beaucoup, monsieur Abondo. On a bien suivi l'intervention de ces différents compatriotes qui essaient d'une part, de faire des propositions et d'autre part aussi de dévoiler aussi leur état d'âme. Quant à moi, la question de gestion de l'institution de la République, on ne gère pas un état avec des états d'âme. Il faut appliquer les textes. C'est ce que j'ai dit. Traversons une crise de gouvernance. Sachant du cas Bozizé, c'est clair. Pourquoi l'ancien président Bozizé ne pourrait pas prendre part? Parce que, il continue toujours de coordonner un mouvement terroriste connu par tout le monde, la CPC. C'est simple pour Bozizé de renoncer à la CPC, de dissoudre la CPC, de se rendre à la justice, si possible de bénéficier d'une présomption d'innocence et prendre part au dialogue. C'est la démarche simple pour lui que de rester coordonnateur de CPC, de continuer à massacrer le peuple centrafricain et d'exiger un dialogue. Non, là, personne ne va accepter de jouer à cette faiblesse.
Voilà, on écoute M. Massieu, 30 secondes comme lui, sur cette question. Okay. C'est les propos.
Moi, je ne suis pas là pour prendre côté de l'ancien président Bozizé ou soit de la CPC. Ça ne m'intéresse pas puisque je n'ai rien à voir avec cette entité. Moi, je pense que par rapport aux différentes réactions écoutées tout à l'heure, le gouvernement doit prendre sa responsabilité parce que ça, là, si ça capote, il en va de sa responsabilité. Il en va de sa responsabilité. On ne veut pas vivre encore un Khartoum 2 après ce dialogue. Merci.
Monsieur Bozang.
Oui, Armando, moi je crois la compatriote que nous venons d'entendre, ils ont résumé le souci du peuple, que les deux parties s'entendent et que les deux parties trouvent une solution afin que le peuple puisse avoir la paix, une paix dynamique. La paix n'a pas de prix.
Monsieur.
Oui, je crois Beddo. Je crois que le chef de l'État, il s'est bien défini. Comme symbole de l'unité nationale. Face à cette situation de blocage, je crois qu'il doit prendre ses responsabilités pour trouver une solution. Voilà, je crois que c'est à lui la manette maintenant de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ni ceux du pouvoir que ceux de l'opposition, personne ne veut écouter l'autre. Et on ne peut pas continuer dans cette dynamique. En tant que chef, en tant que père de famille, il doit prendre une décision équilibriste qui puisse arranger tout le monde afin que tout le monde puisse participer au dialogue.
Voilà, c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres d'ici et d'ailleurs. Merci à tous les auditeurs et les internautes qui continuent de réagir par rapport à ce sujet du jour. Merci à nos invités, les jeunes centrafricains, leaders des partis, leaders de partis politiques, aussi ceux qui intéressent aussi à la politique centrafricaine. Héritier Donnet, directeur de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports, secrétaire général de la coalition Béafrique Engagée, une organisation qui soutient le gouvernement. Et M. Bertrand Beddo, ancien leader des étudiants centrafricains, observateur et enseignant-chercheur à l'université de Bangui. Et Frère Masséo, merci aussi à vous, chargé des relations avec les institutions et la plateforme des jeunes leaders de l'opposition démocratique. Je dis aussi à Edgar Bozang Chili, expert en gestion des conflits et étudiant master en communication politique. Merci à toutes et à tous. La partie technique était assurée par Anne-Alix Pouné-Mathieu, Armand Nguendi. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Au revoir.